journal Loïc Barrière. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken attendu demain en Israël, première étape d'une tournée qui le conduira aussi en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie. Israël annonce à cette occasion un sommet israélo-arabe dimanche avec le Maroc, les Émirats arabes unis et Bahreïn. À 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, quel bilan peut-on faire de la politique étrangère d'Emmanuel Macron ? Élément de réponse avec Elie Masbounji, présidente de l'Association de la presse étrangère. Un mois après le début de la guerre en Ukraine, la Russie dit avoir perdu 1351 militaires. Coup de projecteur sur la colère des retraités qui ont manifesté hier dans toute la France avec Marc Bastide, secrétaire général de l'UCR-CGT. Enfin, l'invité de Pluriel est Samir Lassoued, candidat socialiste aux législatives dans la 6e circonscription du Val d'Oise, extrait dans ce journal. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken entame demain une tournée en Méditerranée. Le chef de la diplomatie américaine se rendra en Israël, en Cisjordanie, au Maroc et en Algérie du 26 au 30 mars. À cette occasion, le ministère israélien des Affaires étrangères annonce la tenue d'un sommet israélo-arabe qualifié d'historique samedi et dimanche en Israël. Ce sommet réunira les Émirats arabes unis, le Maroc et Bahreïn, 3 pays arabes qui ont récemment normalisé leurs relations avec Israël. À noter qu'en Algérie, Anthony Blinken sera reçu par le président Tebboune et son ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra. Au menu de ces entretiens, les questions de sécurité régionale et les relations commerciales. À 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle le 10 avril prochain, regard sur la politique étrangère menée par Emmanuel Macron. Le président de l'Association de la presse étrangère, Elie Masbounji, propose un édito sur ce sujet sur son site d'information trilognews.com. Au micro de Radio Orient, il évoque les déplacements du président français au Proche et Moyen-Orient.
Le président Macron était très très présent sur la scène internationale. Il a d'une main de fer dans un gant de velours défendu la politique française en gardant des distances avec les uns et en se rapprochant des autres. Il suffit de citer le Liban où il a été 2 fois consécutif après la terrible explosion du port qui a démoli la moitié de la capitale. Se hasardant même à la rencontre des gens dans la capitale, chose qu'on n'a pas vue depuis des années, de longues années, de la part d'un chef d'État étranger, ce qui a mis de baume au cœur des Libanais, malheureusement. La troisième visite qu'il comptait faire n'a pas eu lieu en raison du Covid. Mais ça laisse au Liban l'impression et la conviction que la France reste, était et est toujours et probablement restera la grande amie du Liban et le président Macron l'a prouvé. Le président candidat a été très présent durant son quinquennat en Afrique, sur tous les continents pratiquement. Il a suivi de près toutes les crises internationales. Il a rencontré des dizaines et des dizaines de hauts responsables, le chef d'État, et s'est rendu dans des dizaines de pays également. J'ai estimé que, dans mon petit papier, que comparé aux autres candidats, il est largement en tête au niveau de la politique internationale de la France, ce qui permet de constater dans le monde entier que la France reste une grande puissance. En tout cas, elle est présente partout. Et en prenant des risques, même le président Macron a défendu cette position de la France en faveur de la justice et du droit sur tous les continents, dans le monde entier.
Elie Masbounji, vous avez couvert de nombreux déplacements à l'étranger du chef de l'État Emmanuel Macron. Est-ce que vous pouvez nous faire part des éléments qui vous ont marqué ?
Les éléments qui m'ont marqué personnellement, c'est surtout ses contacts et ses entretiens avec les dirigeants du monde arabe, à commencer par le Golfe, où rarement un chef d'État français eut des entretiens en profondeur avec les dirigeants saoudiens et émiratis pour se contenter de ces deux-là. En matière de politique étrangère et de défense des intérêts de la France, ce qui va sembler plus important, c'est justement ces voyages et ces longs entretiens avec Abdallah, l'Arabie saoudite, et avec Mohamed Ben Salman, qui est de facto le dirigeant des Émirats arabes unis, ces deux pays étant maintenant de grands alliés de la France. Mais il ne faut pas oublier non plus l'Irak, son grand voyage en Irak, où il a été faire un tour du pays, du moins dans les régions possibles. Il a rencontré toutes les personnalités. Il ne s'est pas contenté du chef de l'État, du chef du gouvernement. Il a été à la rencontre des communautés et il a tenu des propos très encourageants. Et c'était en fait la voix de la France qui n'était pas jusqu'à ce moment-là connue en Irak. Donc Irak, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, les rapports avec l'Égypte étant excellents et anciens, ce n'est pas une nouveauté, mais ce trépied irako-saoudo-émirati est quelque chose que le président Macron a construit, a établi lui-même. Il a monté ce trépied et la France existe dans la région grâce à ses voyages et ses entretiens en profondeur avec les dirigeants de ces pays, de ces trois pays.
Et vous mettez en lumière un certain équilibre.
Justement, l'intérêt et l'importance de ces voyages dans ce pays-là, il a consacré un équilibre diplomatique et politique, un équilibre basé sur le droit et sur la justice. Avec l'Iran, il ne faut pas oublier, avec l'Iran, il a maintenu, je ne dirais pas un minimum, mais un niveau satisfaisant des relations, alors qu'au pire moment de la guerre froide et chaude, de la crise politique entre l'Arabie saoudite d'un côté et l'Iran de l'autre, chose très difficile, qui n'était pas facile et n'est toujours pas facile en raison de la véritable guerre qui oppose indirectement ces deux puissances régionales. La guerre du Yémen, ce n'est pas un secret pour personne que l'Iran est derrière le mouvement Houthi et l'alliance saoudo-émirati qui a connu des couacs récemment, a entretenu et a été présente dans cette guerre. Et c'était une prouesse pour le président Macron que de maintenir, malgré tout ça, une relation, disons, satisfaisante avec l'Iran. Et cela est une arme pour l'avenir, et je suis sûr qu'après sa réélection sur l'État, elle est souhaitée par beaucoup de peuple et par beaucoup de monde à l'extérieur, sera utile pour mener à bien ces fameux accords, le rétablissement ou la formule, peut-être une nouvelle formule, sur le nucléaire iranien, en même temps qu'il a prouvé par ailleurs qu'en Ukraine, il a maintenu les liens avec les deux belligérants, donc la Russie et l'Ukraine, sans oublier les longues conversations qui étaient à un certain moment quotidiennes avec le président Poutine et le président Zelensky. Et si un jour, comme tout le monde l'espère, il y a un arrangement et une paix en Ukraine, ce sera certainement et dans une grande partie grâce au président Macron.
Le président de l'Association de la presse étrangère, Elie Masbounji, au micro de François-Xavier de Calonne. En Tunisie, des dizaines de journalistes se sont rassemblés dans la capitale pour réclamer la libération du correspondant d'une radio privée placée en détention. Il s'agit de Khalifa Ghesmi, journaliste de Mosaïque FM, qui a été arrêté le 18 mars après la publication d'un article sur le démantèlement d'une cellule terroriste. Un mois après le début de la guerre en Ukraine, l'avertissement d'Emmanuel Macron, le président français, estime que nous sommes en train d'entrer dans une crise alimentaire sans précédent. Il rappelle que des pays ont des difficultés à s'approvisionner en blé et plus globalement en céréales. Il a notamment cité l'Égypte. Un mois après le début de l'invasion russe, quelles sont les pertes militaires de la Russie? L'Ukraine affirme que Moscou a perdu 15 000 hommes, mais aujourd'hui l'armée russe reconnaît 1 351 morts dans ses rangs et 3 825 blessés. C'était hier une mobilisation nationale des retraités pour l'augmentation des pensions. Des rassemblements ont eu lieu dans une trentaine de villes françaises. Mobilisation à l'appel de 9 syndicats et associations. Au-delà des questions liées au pouvoir d'achat, Marc Bastide, secrétaire général de l'UCR-CGT, évoque notamment des problèmes d'accès aux services publics qui sont aujourd'hui dématérialisés.
Il faut savoir que 30% des retraités n'ont pas d'accès à Internet. Ça, c'est une dimension importante. Et dans le même temps, en ce qui concerne les services publics, il y a pratiquement aujourd'hui, soit c'est des numéros d'appel, soit c'est par Internet, et où, pour un grand nombre de retraités, c'est assez difficile, puisqu'il n'y a plus d'accueil, entre parenthèses, que ce soit en ce qui concerne les impôts, que ce soit en ce qui concerne la sécurité sociale, que ce soit en ce qui concerne la poste, on est face à des machines, et que ce soit, y compris maintenant, la SNCF vient de dire qu'en 2023, il n'y aura plus de guichet en gare, guichet avec avec du personnel. C'est-à-dire que cette situation avec l'ensemble de ces applications, parce qu'y compris il faut avoir les codes, les machines, les sirémies, eh bien, on est en train d'isoler un peu plus un grand nombre de retraités par rapport à la vie de tous les jours et à leurs besoins, quoi.
Et est-ce que vous plaidez pour une formation auprès de ces personnes sur la digitalisation?
La question, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des formations, etc., etc. Mais en même temps, il y a besoin aussi d'avoir d'accueil d'agents du service public pour avoir un accueil concret. Je prends un exemple, admettons. Aujourd'hui, vous pouvez payer vos impôts dans un bureau de tabac. À la limite, on peut dire, c'est de proximité, ça peut aller vite, etc., etc. Sauf que si vous avez une question à poser, c'est pas le salarié ou le patron du bureau du tabac qui va pouvoir vous répondre à une question précise par rapport aux impôts. Vous voyez. Donc la notion d'accueil, elle est importante aussi, mais je pense aux retraités, mais je pense peut-être au-delà des retraités. C'est important aussi parce que on a un certain nombre de problèmes particuliers. Je prends un deuxième élément, ce qui concerne les retraites et les retraites complémentaires. Là aussi, il y a à la sécurité sociale, on est en train de supprimer l'accueil. Donc, il faut avoir le numéro de code. Mais s'il y a des questions particulières par rapport à la retraite ou en ce qui concerne l'arco élargique aux retraites complémentaires, on est dans une situation où on a beaucoup de difficultés à pouvoir avoir les renseignements qui sont parfois des besoins. Je vous donne un exemple quand même, en ce qui concerne les salariés du privé et même du public, même s'ils ont un petit quelque chose. Et aujourd'hui, sa seule feuille de paie un retraité, c'est ce qu'il a sur son compte en banque. Vous voyez, on n'a pas le retraité, il ne sait pas combien il paye de CSG, combien il paye de CASA, etc., etc. En termes de cotisation, vous voyez. Voilà. Donc là aussi, il y a besoin d'ouvrir des accueils ou du moins d'avoir des éléments qui permettent de pouvoir contrôler un petit peu ce qu'on touche à la fin du mois, ou le premier du mois en ce qui concerne les retraites complémentaires, ou aux alentours du 10 en ce qui concerne la retraite de la sécurité sociale.
Et lorsque l'on vous écoute, l'on comprend que c'est globalement la considération des retraités qui pose un problème aujourd'hui.
Effectivement, au nom de la CGT, mais y compris lors de la conférence de presse que j'animais autour avec les neufs, cette question, elle est importante parce que, quoi dire, ça isole les retraités, alors que au bout d'un grand nombre d'années de travail, ils ont besoin de pouvoir s'aérer, et quand ils ont un problème, de pouvoir à essayer de se renseigner dans le meilleur des cas. Donc, on parle beaucoup des retraités, bien souvent, je suis tenté de dire, mais on les méprise un petit peu aussi, soi-disant, ils sont tous propriétaires, ils ont de 6, ils ont de 1000, mais sauf que la réalité, elle est pas du tout comme ça. Moi, j'écoute un grand nombre de retraités qui soient dans le milieu urbain ou dans le milieu rural, ils ont des difficultés à avoir des outils, je serais tenté de dire, de proximité. Moi, je connais, admettons, une dame qui me disait, il y a pas longtemps, dans mon village, avant, je pouvais mettre une lettre pour la poster. Aujourd'hui, dans ce village-là, il n'y a plus de poste, mais il n'y a même plus de boîte aux lettres. Elle est obligée de faire 15 kilomètres pour mettre sa lettre dans une boîte aux lettres. Vous voyez dans quelle situation, y compris en ruralité, on met les retraités. Donc, on les met sur le banc de l'isolation, entre parenthèses.
Marc Bastide, secrétaire général de l'UCR-CGT, il répondait à François-Xavier de Calonne. Le Covid-19 poursuit son retour en France. Le nombre de cas a encore augmenté, notamment à l'école. L'éducation nationale annonce que 3080 classes sont fermées et 81 424 élèves sont positifs, soit une hausse de 50% par rapport à la semaine dernière. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Samir Lassouède, candidat socialiste aux législatives dans la 6e circonscription du Val d'Oise. Dans cette émission, il évoque la situation des 10 millions de pauvres en France et les propositions d'Emmanuel Macron sur le RSA et les retraites.
Alors déjà, je ne touche pas au RSA. Déjà, j'estime que les gens qui sont au RSA sont dans une grande fragilité et que ça sert à rien de les humilier comme est en train de le faire Emmanuel Macron.
Vous faites référence à l'obligation de travail. 15 à 20 heures d'activité par semaine.
Qui est en fait un SMIC à 6,50 euros déguisé, puisque quand on fait travailler les gens 20 heures par semaine pour 550 euros, c'est ça. Et donc déjà, je ne touche pas au RSA. Ensuite, je m'occupe des salaires. Parce que ce qui compte pour les gens, c'est quand ils ont fini de travailler 35 heures dans la semaine, quand ils ont fini de travailler à la fin du mois, ils puissent avoir une fiche de paye qui leur permette de vivre. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi, je propose d'augmenter de 15% le SMIC parce que c'est la seule solution pour augmenter le pouvoir d'achat. On baissera pas les cotisations sociales comme veut le faire la droite parce que c'est du salaire différé. Ça appartient aux travailleurs. Nous, on veut augmenter le pouvoir d'achat par le salaire. Pour la retraite à 65 ans, c'est une mesure de quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Parce que à 65 ans, on n'est pas en bonne santé. Donc c'est pas une retraite, pour commencer. Donc on peut accepter que pour certains métiers où c'est un plaisir, je vous prends le cas par exemple des avocats, c'est un métier passionnant. Donc je peux comprendre que certains, et encore, il faut regarder, veuillent travailler au-delà de 60-62 ans. Pour des ouvriers, des infirmiers, des petits fonctionnaires qui crapahutent du matin au soir, à qui on va dire « mais vous travaillez pas assez en fait, faut continuer encore 50 ». C'est pas supportable. C'est une violence incroyable de dire aux gens vous allez travailler encore 5 ans. Non, il y a une raison pour laquelle on met l'âge à 60 ans et moi j'aimerais qu'on la mette plus tôt pour les métiers pénibles, pour les ouvriers, j'aimerais que ça commence plus tôt que 62 60 ans parce que c'est des métiers où on n'arrive pas en bonne santé à l'âge de la retraite, voire on meurt avant l'âge de la retraite. Donc c'est une hypocrisie de parler de retraite à 65 ans.
Samir Lassouède, candidat socialiste aux législatives dans la 6e circonscription du Val d'Oise. Il est l'invité de Pluriel à 19h et 23h. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.